Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présentons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى
فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Par la nuit, quand elle enveloppe, et par le jour, quand il éclaire, et par ceux qu'il a créés mâles et femelles. Certes, oui, vos efforts sont divergents. Puis, quant à celui qui fait largesse, et se comporte en piété et confirme la plus belle des choses, alors nous lui faciliterons la plus grande facilité. Et quant à celui qui est avare et cherche à se mettre au large et traite de mensonge la plus belle des choses, alors nous lui faciliterons la plus grande difficulté. Une fois perdu, cependant, ses richesses ne le mettront pas au large.
Musique. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 12 Farvardin, 1400 du calendrier iranien, 1er avril 2021. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. Le 1er avril, fête de l'établissement de la République islamique en Iran. Téhéran continue d'appeler les parties de l'accord nucléaire de 2015 à s'acquitter de leurs obligations liées à l'accord nucléaire. Israël affaibli, la résistance se renforce, a déclaré Seyed Hassan Nasrallah. Et la nouvelle attaque de l'armée yéménite contre Riyad, capitale de l'Arabie saoudite. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Téhéran continue d'appeler les parties de l'accord nucléaire de 2015 à s'acquitter de leurs obligations liées à l'accord nucléaire. La nouvelle administration américaine n'a jusqu'à présent pris aucune mesure sérieuse et pratique pour revenir à ses obligations liées à l'accord nucléaire, a déclaré le président iranien. Hassan Rouhani a déclaré que l'Iran était dans une guerre économique imposée par les ennemis, bien qu'il soit attaché à l'accord nucléaire. Il a déclaré que Téhéran avait prouvé qu'il était attaché à ses obligations et recherchait la paix. Le président Rouhani a déclaré que c'était maintenant l'autre partie qui devrait faire un pas en avant et a averti que tout retard serait à leur détriment. Les États-Unis se sont retirés de l'accord sur le nucléaire iranien en 2018 et ont rétabli les sanctions contre l'Iran. Téhéran dit qu'il n'arrêtera de revenir sur ses engagements une fois que toutes les sanctions seront levées. Le secrétaire général du Hezbollah libanais a déclaré mardi dans un discours télévisé que les États-Unis se trouvaient sur la pente du déclin. C'est ce que le leader de la révolution islamique a souligné, a déclaré Seyed Hassan Nasrallah. Le secrétaire général du Hezbollah a déclaré que l'axe israélo-américain projetait toujours de réaliser son rêve d'étendre les zones sous occupation israélienne du Nil à l'Euphrate. Faisant référence à la guerre contre le Yémen, Seyed Hassan Nasrallah a déclaré que contrairement à ce que l'Arabie saoudite cherchait à décrire au début de la campagne militaire, le conflit n'avait rien à voir avec les chiites et les sunnites. La guerre est plutôt dirigée par les objectifs des États-Unis et de leur complot pour la région, a déclaré Nasrallah. le secrétaire général du Hezbollah a souligné que toute trêve potentielle devrait s'accompagner d'une levée du siège, comme l'exige Sanaa. Le secrétaire général du Hezbollah libanais a ensuite appelé toutes les nations de la région à s'asseoir à la table du dialogue pour résoudre leurs problèmes, loin des ingérences des États-Unis. L'armée yéménite affirme avoir lancé une nouvelle attaque contre l'Arabie saoudite en représailles à la guerre en cours du royaume contre le Yémen. Le porte-parole de l'armée, Yahya Sari, a déclaré que l'attaque avait frappé la capitale saoudienne, Riyad, à l'aide de 4 drones. Il dit que des cibles importantes y ont été atteintes. Selon lui, l'armée yéménite a le droit légitime de répondre à l'agression et au blocus saoudien. Yahya Sari a averti que les attaques de représailles se poursuivraient tant que la coalition saoudienne ne mettra pas fin à son agression. Parallèlement au succès des services de renseignement de l'armée et des comités populaires du Yémen, Al-Akhbar a rapporté qu'au cours des deux derniers jours, environ 200 soldats et officiers ont fait défection au sein du gouvernement yéménite démissionnaire et ont rejoint l'armée yéménite et les comités populaires d'Ansarallah. D'ailleurs, il y a deux mois, l'armée et les comités populaires liés à Ansarallah ont lancé une nouvelle phase de l'opération de libération de la province pétrolifère de Ma'arib afin d'en chasser les miliciens à la solde du gouvernement démissionnaire de Mansour Hadi. Au Niger, des militaires ont été arrêtés après une tentative de coup d'État dans la nuit de mardi à mercredi, et la situation est sous contrôle, a déclaré une source sécuritaire. Le gouvernement du Niger a affirmé avoir déjoué une tentative de coup d'État alors que le président élu Mohamed Bazoum doit prendre ses fonctions le 2 avril. Dans un communiqué, le gouvernement condamne cet acte lâche et rétrograde, voulant mettre en péril la démocratie et l'état de droit dans lequel notre pays s'est résolument engagé. Des tirs à l'arme lourde ont été entendus pendant une demi-heure dans le quartier du palais résidentiel. Mais la garde présidentielle a repoussé cette attaque et la situation semble être revenue sous contrôle. En Centrafrique, les forces de défense et de sécurité ont repoussé des éléments rebelles de la coalition des Patriotes pour le changement, avec à sa tête l'ex-putschiste François Bozizé, ayant tenté une incursion dans la ville centrafricaine de Bouar, dans l'ouest. D'après les sources locales, les combats ont démarré quand les forces gouvernementales ont pris le dessus sur les rebelles. Comme à l'accoutumée, les affrontements ont entraîné la fuite de la population. Depuis plusieurs semaines, les forces de défense et de sécurité centrafricaines, appuyées par leurs alliés internationaux, ont réussi à reprendre le contrôle de plusieurs localités entre les mains des rebelles. Mardi, lors de son investiture, le président centrafricain a annoncé qu'il ne veut plus entendre parler de groupes armés actifs sur le territoire centrafricain pour son second quinquennat. L'Organisation des Nations Unies a mis en garde qu'une guerre civile et un bain de sang seraient imminents au Myanmar. En effet, depuis la répression pratiquée contre la minorité musulmane en Birmanie, un tollé international a été provoqué, défiant sérieusement Aung San Suu Kyi, l'ex-dirigeante et l'ex-chef de la Ligue nationale pour la démocratie. Après un réquisitoire de l'émissaire de l'organisation, l'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi est convoqué devant la justice. Plus de 530 personnes, dont de nombreux étudiants, des adolescents et des enfants, ont été tués par les forces de sécurité depuis le coup d'État militaire du 1er février, selon l'Association d'assistance aux prisonniers politiques. Des centaines d'autres détenus au secret sont portés disparus. L'ex-dirigeante doit comparaître ce jeudi en vidéoconférence devant un tribunal de la capitale. Elle est poursuivie pour 4 chefs, dont incitation aux troubles publics. Et enfin, la police de la ville californienne d'Orange a fait état d'une fusillade mercredi avec plusieurs victimes sur les lieux, dont des morts. Et des médias locaux ont indiqué que 4 personnes avaient été tués avant qu'un suspect ne soit arrêté. Peu de détails officiels sur les violences survenues, tant la ville située au sud de Los Angeles était immédiatement disponible. Le département de police d'Orange a déclaré sur sa page Facebook que la situation avait depuis été stabilisée et que plus rien ne représentait une menace pour la police. Le 1er avril, fête de l'établissement de la République islamique en Iran. Il y a 42 ans, le 1er avril 1979, le peuple iranien, après être sorti victorieux de sa lutte contre le régime autoritaire du système monarchique national au milieu des cris de liberté et d'indépendance, a déclaré à l'unanimité sa décision finale et définitive pour l'établissement d'un nouvel ordre. Une majorité de 98,2% a voté pour l'établissement de la République islamique en Iran. Le 1er avril 1979, un ordre est né qui a réfuté les théories dominantes de la séparation de la religion et de l'État et a mis au premier plan un gouvernement islamique basé sur des valeurs et des enseignements religieux. Pour répondre aux besoins matériels et spirituels de tous les êtres humains, inspirés par les lois et les enseignements de l'islam, la République islamique a établi une nouvelle forme de gouvernance qui offre un nouveau modèle de vie dans l'arène sociopolitique de l'humanité moderne. L'établissement de la République islamique en Iran et l'effondrement des institutions de l'impérialisme, en plus des développements internes, ont entraîné des changements dans le système international. Cela a marqué le début de la fin du colonialisme. Le peuple a réagi pour mettre fin à la tyrannie et à la domination impérialiste. Pour le peuple iranien, le 1er avril 1979 est le début d'une nouvelle phase de développement fondée sur l'indépendance, la mobilisation populaire et une volonté générale de la nation. Malgré la diversité ethnique et culturelle, la nation iranienne est unie de cœur sous le drapeau de l'islam. Non seulement à l'intérieur de ses propres frontières, mais la révolution islamique a également donné une identité supranationale à de grandes nations résistantes au-delà des frontières. En fait, la résistance fonctionne comme une machine complexe avec une puissance énorme. Mais dans des luttes incessantes contre l'ennemi, deux qualités sont indispensables. Premièrement, la foi, qui même dans les heures les plus sombres, conserve quelques lueurs de la lumière intérieure qui conduit à la vérité. Deuxièmement, le courage de suivre cette lumière partout où elle mène. La lutte contre l'impérialisme n'est pas un simple slogan et se poursuit alors que l'impérialisme se réinvente sous de nouvelles formes. Ce qui a uni le peuple contre elle, c'est néanmoins l'idéologie supra-étatique de l'islam. Du point de vue de l'islam, la gouvernance ne découle pas de la position des classes sociales ou de la domination d'un groupe ou d'un individu. C'est plutôt la cristallisation de l'idéal politique d'une nation ayant une foi et une perspective commune qui doit être organisée de sorte que, dans le processus de son développement intellectuel et idéologique, elle puisse se frayer un chemin vers son but ultime. Dans le courant de son évolution révolutionnaire, la nation iranienne est revenue à la vision du monde et aux positions intellectuelles de l'islam authentique. Le peuple était déterminé à établir sa société modèle exemplaire sur la base de critères islamiques. Sur ces bases et au regard du contenu islamique de la révolution iranienne de 1979, qui était un mouvement pour la victoire de tous les peuples opprimés sur les oppresseurs, le gouvernement islamique de l'Iran, du peuple pour le peuple, prépare le terrain à la poursuite de cette révolution en Iran et à l'étranger. Pour renouveler les prémices idéologiques du soulèvement, en particulier, il s'efforce d'élargir les relations internationales avec d'autres mouvements et peuples islamiques afin d'ouvrir la voie à la formation d'une communauté universelle unique.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, des débats. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons en fait revenir sur les récents développements politiques et militaires relatifs au Yémen. Sur le plan politique, il y a eu des informations comme quoi des négociations sont en cours à Mascate, capitale omanaise, entre la résistance yéménite, les États-Unis et les Saoudiens. Sur le plan politique, toujours, il y a eu cette information comme quoi l'ONU, l'Organisation des Nations Unies et les États-Unis avaient accepté de faire une distinction entre les affaires humanitaires et les affaires politiques et militaires. C'était une exigence avancée par la résistance des Yéménites en Sarallah. Sur le plan militaire, surtout, en fait, la résistance a le dessus. Des affrontements sont en ce moment ici en cours dans cette province stratégique, ô combien stratégique, de Marib. La résistance yéménite, composée de l'armée et des comités populaires, en fait, a remporté des victoires stratégiques dans cette province névralgique du Yémen. Des affrontements sont en un moment, si vous voulez, en cours au nord-ouest de la ville de Ma'arib, de la résistance yéménite, a, si vous voulez, pris le contrôle des régions stratégiques dans l'ouest de Ma'arib. Alors, sur le plan politique et sur le plan militaire, la résistance yéménite est en position de force. Pour vous en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission deux invités. J'ai avec moi pour cette émission depuis Bruxelles un géopoliticien, analyste politique et spécialiste des questions internationales, M. Luc Michel. Luc Michel, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, c'est toujours un plaisir comme d'habitude. Bonjour à mon collègue.
Vous l'avez dit, en fait, l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est M. Elias Moutran, membre du Congrès national arabe, analyste politique et spécialiste des questions internationales, qui est avec moi pour cette émission depuis Beyrouth, capitale libanaise. Monsieur Moutran, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour monsieur, c'est un plaisir. Je souhaite le bonjour aussi à tous vos auditeurs.
Monsieur Moutran, on va commencer avec vous de notre émission d'aujourd'hui. Vous suivez en fait de près depuis Beyrouth, capitale libanaise, ces développements qui se produisent en fait au Yémen sur le plan politique et militaire. Quelle évaluation portez-vous sur ces récents développements, Monsieur Moutran, s'il vous plaît?
Oui, les récents développements montrent que l'agression perpétré par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis et leurs alliés américains et sionistes contre le Yémen a été un très grand fiasco militaire, politique et stratégique. La résistance yéménite qui a adressé des coups très durs à l'agresseur saoudien est actuellement en position de force. L'agresseur ne sait plus comment se retirer du bourbier yéménite. Les forces de l'agression, malgré leur tentative d'assurer des mercenaires de plusieurs pays arabes et même de plusieurs pays d'Amérique latine, se sont retrouvées dans une situation désastreuse. Ils sont sur la défensive, malgré les crimes perpétrés par leur aviation et par la manière dont ils encerclent le Yémen et le blocus. Il faut signaler aussi que ces agresseurs ont commis des crimes de guerre en encerclant et en imposant un blocus agressif et très sauvage et barbare même contre des populations civiles qui sont pauvres mais qui sont fières et qui n'ont jamais accepté de devenir l'arrière-cour d'aucun pays, ni voisin, ni colonialiste, ni lointain, qu'il soit arabe, musulman ou européen. Le Yémen a toujours été un pays fier, digne, représentant une très grande civilisation, et toutes les tentatives d'invasion du Yémen ont été lamentablement échouées, comme cette dernière. Il est clair aujourd'hui que par rapport à la résistance yéménite et aux forces qui représentent le peuple du Yémen, toute négociation ne peut commencer qu'à partir du moment où l'agression s'arrête totalement, sans condition, que le blocus soit levé totalement, sans condition, et que le Yémen retrouve sa capacité à importer les produits alimentaires, les médicaments et toutes les nécessités pour que ce peuple vive sans aucune condition. À partir de ce moment, les négociations peuvent commencer. Mais il n'est pas question de monnayer la liberté de circulation par terre, par mer ou par air, par aucune condition. L'arrêt de l'agression doit être militaire et doit aussi comporter la levée totale du blocus. Sinon, l'agression continue d'une autre façon. Et il n'est pas question de donner à l'agresseur une rançon. L'agresseur arrête son agression, lève son blocus, arrête ses crimes contre l'humanité et après il y a d'éventuelles négociations. Sinon on reste au point de départ.
Merci beaucoup, en fait, M. Moutran. M. Michel vient de faire allusion à ces mercenaires qui ont participé à cette guerre d'agression contre le Yémen. Selon une dernière information en provenance de la province de Ma'arib, les mercenaires fidèles à l'ancien président fugitif et démissionnaire yéménite Mansour Hadi sont en train de se rendre à la résistance yéménite dans la région de Ma'arib, d'autant plus qu'en fait, la résistance yéménite est désormais à la porte au nord-ouest de Ma'arib. À la porte, si vous voulez, de cette ville stratégique. Luc Michel, vous venez d'entendre les explications de M. Moutran. Votre lecture, votre analyse, s'il vous plaît.
Écoutez, on parle sans arrêt pour le moment des 10 ans de la guerre en Syrie, mais on a oublié dans les médias occidentaux cette seconde guerre du Proche-Orient qui est la guerre du Yémen. Elle est comme la Syrie, issue de ce qu'on a appelé le soi-disant printemps arabe, qui en fait a été un hiver glaciaire pour toutes les populations du Proche-Orient. Il y a des différences avec la Syrie, c'est que, contrairement à la Syrie d'Afrique, qui a conforté son État, l'État s'est effondré et le Yémen a plongé dans la guerre civile et du chaos. Sur ça, c'est un autre comme la Syrie, c'est développé l'agression étrangère, c'est-à-dire l'agression occidentale, des Américains, des Britanniques et des Français qui s'expriment au travers de la rapidité et du fédéral. Il y a actuellement un phénomène qui est intéressant. D'une part, c'est l'isolement international de Mohamed Ben Salman qui essaye de quitter le bourbier yéménite. Ben Salman aujourd'hui est mal isolé vis-à-vis de l'administration Biden. On se rappellera d'ailleurs que Khashoggi était un membre des réseaux Soros Obama Clinton, qui sont aujourd'hui endossés à la Maison Blanche avec Kamala Harris et Joe Biden. D'autre part, les Saoudiens ont tiré les barreaux du feu pour un autre partenaire, c'est les Émirats arabes. De la guerre du Yémen, les Émirats arabes sont ressortis comme une grande puissance maritime, alliée dans un axe stratégique à Paris, et qui se déploie depuis le port de Sine jusqu'à la mer. Les Émirats souhaitent conserver leur acquis, notamment cette tentative de sécession qu'ils ont lancée dans les ports du Yémen comme dans les années 60, et dès lors, ils ont une tendance également à chercher des négociations. Comme ça, voilà, a été créé au moment où on passe le victorieux, c'est-à-dire où le temps reste et bouclé, où une pierre difficile nous cause à la rapidité, il n'est pas question de tomber dans le piège saoudien. Le piège saoudien, qu'est-ce que c'est? C'est lié les opérations militaires à la crise humanitaire. Ce qu'on veut en Sarala, c'est qu'on laisse tous les embargos, qu'on arrête de faire payer les populations. Il y a notamment la crise humanitaire, elle révèle des embargos saoudiens et occidentaux. Vous avez soulevé des questions. C'est la présence des militaires. La guerre du Yémen, c'est une guerre internationale, un peu comme celle de la Syrie. Il y a des mercenaires qui correspondent à la privatisation occidentale de la guerre. Il y a aussi les marchands, en particulier les Australiens, les Anglais et les Français. Il y a une série de scandales d'ailleurs. C'est-à-dire qu'au moment où, effectivement, on parle du désastre humanitaire à l'ONU, on organise cette guerre en vendant des armes. C'est pour cela que la résistance en Russie, elle entend un plan de négociation globale, elle est en position de force, puisque les Saoudiens, eux, sont en position d'extrême faiblesse. Biden n'entend pas rompre l'alliance avec les Saoudiens, mais il ne veut plus de Mohamed Ben Salman.
Merci beaucoup. Mais en ce qui concerne M. Moutran, de cette guerre d'agression contre le Yémen, cela est devenu vraiment un exemple en ce qui concerne la résistance à une occupation étrangère. On vient de découvrir en fait les images qui parlaient d'elles-mêmes il y a quelques jours, en fait, le peuple yéménite à participer, si vous voulez, à cette journée baptisée, si vous voulez, le jour de la résistance à l'occupation en fait des Yéménites qui étaient descendus dans la rue pour réitérer leur soutien à la résistance et pour condamner cette agression. Monsieur Oumoutran, en fait, Luc Michel vient de le dire que cette guerre contre le Yémen est devenue en fait une guerre internationale. S'agissant du rôle des grandes puissances, il y a eu en fait cette récente déclaration d'un responsable, si vous voulez, d'un Sarallah de la résistance yéménite qui parlait en fait du rôle des grandes puissances et il disait que voilà, des grandes puissances comme les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne voient plutôt, si vous voulez, en cette guerre contre le Yémen, plutôt un marché, si vous voulez, d'armement, M. Moutran.
Oui, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, au début de notre interview, j'avais bien précisé que l'agression était l'agression américaine et sioniste avec les États du Golfe qui étaient les agresseurs et leurs mercenaires. Si je l'ai précisé au tout début. Je voudrais ajouter deux choses, s'il vous plaît, qui vont dans le même sens de votre question. La première, c'est que nous sommes nous tenons totalement, ainsi que le peuple du Yémen, à l'unité du Yémen. Il faudrait aussi dénoncer les tentatives de certains mercenaires émiratis de tenter de créer des sécessions et des troubles à l'intérieur des régions qu'ils occupent au sud du Yémen. Ceci aussi est un crime de guerre. De même que le crime de guerre qui consiste à créer certaines bases dans l'île de Socotra et de permettre aux sionistes d'être présents, ainsi qu'aux Américains d'être présents sur ces bases, est un crime. Et un très grand crime que nous condamnons et nous refusons totalement. Il n'est pas question que les Émirats changent la carte du Yémen ou de n'importe quel pays arabe. Ceci doit être aussi très clairement exprimé. Pour ce qui concerne l'agression elle-même, il est clair depuis la visite de Trump en Arabie Saoudite que les Américains et ce qu'on appelle le lobby industriel ou militaire américain a vu des contrats juteux. Il a vendu des armes aux Saoudiens. Ces armes ont participé à l'agression. Donc il est clair que l'administration américaine ainsi que d'autres pays occidentaux, dans le but de réaliser des bénéfices, ont encouragé les agresseurs à utiliser des armes contre les populations civiles démunies. Néanmoins, ce qui est très important à signaler, c'est que le courage et la détermination du peuple du Yémen a permis une riposte ciblée qui a atteint des objectifs stratégiques qui ont totalement désemparé les agresseurs saoudo-émiratis qui ne s'attendaient pas à ce qu'une résistance populaire yéménite puisse leur adresser des coups et leur répondre de la même monnaie. Et il faut préciser que tandis que l'agresseur bombarde des populations civiles pauvres et démunies, la résistance yéménite, elle, bombarde des positions stratégiques et des positions névralgiques qui doivent dissuader l'agresseur pour qu'il arrête son agression. Ça, c'est très important. La riposte yéménite est une riposte appropriée qui permet à l'agresseur de comprendre la bêtise et le crime de son action, parce qu'en même temps, cette agression contre le Yémen est criminelle et elle est bête parce qu'elle est sans issue. Ils doivent simplement lire quelques livres d'histoire et ils doivent comprendre que jamais un agresseur n'a réussi au Yémen. Évidemment, il y a le prix du sang à payer, il y a les martyrs, il y a les enfants qui souffrent de la famine. Il faut revenir au rapport de l'UNESCO, à l'OMS, à d'autres organismes internationaux chargés d'évoluer la catastrophe humanitaire issue de cette agression, de comprendre l'urgence et la nécessité de lever totalement et immédiatement le blocus criminel contre le peuple du Yémen.
Monsieur Michel, en fait, il y a ceux parmi les analystes qui disent que, en fait, Mohamed Ben Salman, en 2015, alors ministre de la Défense du régime saoudien, avait compté surtout sur le soutien et le feu vert de Washington pour lancer cette guerre d'agression contre le Yémen, parce que vous en souvenez très bien, M. Luc Michel, Adel Al-Jubayr, alors ministre saoudien des Affaires étrangères, a annoncé cette guerre d'agression contre le Yémen depuis Washington, c'est-à-dire en visite à Washington, il a annoncé cette guerre d'agression contre le Yémen. Il y a ceux parmi des analystes, Luc Michel, dans l'état actuel des choses, qui sont d'avis que les États-Unis pourraient lâcher Mohammed bin Salman, prince héritier actuel du régime saoudien, au moins en ce qui concerne la guerre contre le Yémen. Est-ce de votre avis également?
Oui, tout à fait.
Monsieur Moutrao, en fait, il nous reste une minute de deux minutes pour cette émission. Le mot de la fin vous appartient, s'il vous plaît.
je voudrais simplement confirmer que l'agression est un crime et un échec. Et encore un mot très important, cette agression, qui est non seulement un crime et un échec, est un risque pour l'agresseur lui-même. Il faut que l'agresseur comprenne que s'il continue dans sa politique criminelle, l'agresseur ou les agresseurs, j'utiliserai plutôt le pluriel parce que je pense à deux états déterminés, risquent eux-mêmes de s'effondrer. Il faudrait que l'agresseur arrête son agression, non par humanisme, non par nationalisme arabe, non par sentiment de patriotisme, mais uniquement dans son intérêt propre, parce qu'en tant que régime et même en tant qu'institution au pluriel, il risque lui-même de s'effondrer. Donc l'arrêt de cette agression est une nécessité humaine, une nécessité nationale arabe, une nécessité surtout pour le régime lui-même dans son intérêt lui-même. Et ça, c'est le comble de l'absurdité qui risque de s'effondrer, il ne le comprend pas. C'est ça le drame. Donc, encore une fois, nous adressons à travers vos ondes toutes nos salutations à la résistance yéménite et à tout l'axe de la résistance, et nous leur souhaitons beaucoup de courage et de détermination. La victoire est au bout du fusil, et ils l'ont et ils l'auront. Et nous souhaitons que cette agression s'arrête dans l'intérêt du Yémen et des autres agresseurs même.
Monsieur Ilyas Moutran, membre du Congrès national arabe, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission de débat. Et depuis de Beyrouth, émission consacrée au dernier développement relatif, en fait, développement politique et militaire relatif au Yémen. Mes vifs remerciements vont également à vous, Luc Michel, géopoliticien spécialiste d'analyse politique, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Bruxelles, Luc Michel. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt.
Des dizaines de civils ont été tués ces derniers jours lors d'une spectaculaire attaque terroriste des takfiristes dans le nord du Mozambique, tandis que des milliers de personnes continuaient à évacuer la zone par tous les moyens et dans l'urgence. La ville portuaire de Palma est plongée dans le chaos. Depuis mercredi, cette ville située au nord du Mozambique, à une dizaine de kilomètres d'un site gazier piloté par Total, est tombée aux mains de groupes armés à l'issue de plus de 48 heures de combat. Des dizaines de civils ont été tués ces derniers jours, tandis que des milliers de personnes continuer à évacuer la zone par tous les moyens et dans l'urgence, selon plusieurs sources et témoins. Le groupe français Total ne déplore pas de victimes, a-t-il précisé ce dimanche. Le gouvernement mozambicain a confirmé dimanche soir qu'au moins 7 personnes ont été tuées dans une embuscade vendredi en tentant de s'échapper d'un hôtel où elles s'étaient retranchées, et des dizaines d'autres lors de l'attaque takfiriste initiale mercredi. Plus de 100 personnes sont portées disparues, a affirmé le chercheur Martin Evi de l'Institut des études sécuritaires à Pretoria, évoquant une situation encore très confuse. Les takfiristes qui ont prêté allégeance à Daesh et qui terrorisent depuis plus de 3 ans la province majoritairement musulmane du Cabo Delgado, frontalière de la Tanzanie, ont lancé leur attaque surprise mercredi après-midi sur 3 fronts simultanés, suscitant la panique pour ses 75 000 habitants. Des témoins ont raconté à l'ONG Human Rights Watch qu'ils ont tiré tous azimuts sur les gens et les bâtiments, laissant une traînée de corps dans les rues. Leurs actions ont abouti au meurtre de dizaines de personnes sans défense, a dénoncé le colonel Omar Saranga, porte-parole du ministère de la Défense, lors d'un point de presse. Les habitants, dont de nombreux réfugiés ayant déjà échappé aux violences takfiristes dans leur village, ont repris leur fuite. Certains ont foncé vers les forêts environnantes, d'autres vers les plages où ils sont montés à bord d'embarcations. D'autres encore sont partis à pied ou en voiture vers le site gazier. Là, ils ont frappé à la porte du périmètre ultra sécurisé sur la péninsule d'Anfigui pour s'abriter. Le groupe énergétique français Total, qui ne déplore pas de victimes, a pris la décision de réduire au strict minimum le personnel du site pour des raisons de sécurité. Sur son compte Twitter, l'ambassadeur de France au Mozambique, David Izzo, a salué avec admiration le travail des équipes de Total. Depuis 48 heures, ils sauvent des vies dans des circonstances épouvantables, a-t-il écrit. À l'aéroport, des vols réguliers ont été suspendus pour laisser place aux opérations militaires, selon les fonctionnaires sur place. Caritas, organisation humanitaire présente dans la région, a confirmé l'afflux de réfugiés à Pemba. Des salariés d'entreprises de Palma, notamment, arrivent, a affirmé Manuel Nota, son responsable. Des groupes armés takfiristes, proches de Daesh, terrorisent depuis maintenant 3 ans le nord du Mozambique, frontalier de la Tanzanie. Les attaques se multiplient depuis 1 an dans cette zone côtière de l'océan Indien, située non loin des Comores et du département français d'outre-mer, Mayotte. Depuis août 2020, les terroristes d'Al-Shabaab contrôlent le port stratégique de Massimboa de Praria, crucial pour l'arrivée du matériel nécessaire aux installations gazières, et qui n'a jamais été repris par les militaires mozambicains en dépit de plusieurs tentatives. Mercredi, ils ont pris possession de la ville de Palma, située à seulement 10 km du méga-projet gazier piloté par le groupe français Total. La province musulmane de Cabo Delgado, riche en gaz naturel, est confrontée à une violence guérilla depuis plus de 3 ans. Palma, où des milliers de personnes fuyant ces violences dans leur village se sont réfugiés, compte actuellement 75 000 habitants. Mercredi après-midi, des groupes armés takfiristes de la région, qui s'étaient montrés plus discrets ces derniers mois, ont lancé une attaque d'envergure contre la ville, le jour même où le géant français annonçait la reprise des travaux du site d'exploitation gazière censé être opérationnel en 2024. Selon plusieurs experts, vu l'ampleur de l'attaque et sa préparation minutieuse, il semble cependant peu probable qu'elle soit liée à l'annonce de Total le même jour. Des milliers de personnes fuient depuis désormais la ville portuaire de Palma. Des ONG et l'Organisation des Nations Unies travaillent de concert pour tenter de leur venir en aide. Ils sont arrivés par vagues, frappant à la porte du périmètre ultra-protégé de milliers d'hectares sur la péninsule d'Anfigui, une bulle sécuritaire, une sorte de fort Apache assiégé, selon un expert sécuritaire français, pour s'y abriter. Selon une source participant aux opérations d'évacuation, il y aurait entre 6 000 et 10 000 personnes réfugiées à l'intérieur du site ou demandant à l'être une situation compliquée à gérer. D'autant plus que les travaux de la construction du site gazier, censé être opérationnel en 2024, sont à l'arrêt depuis plusieurs mois. Le conflit au Mozambique a déjà provoqué la mort d'au moins 2600 personnes, dont plus de la moitié de civils, selon l'ONG Aklet. Al-Shabaab, les jeunes en arabe, différents des Shabaab somaliens, qui a fait allégeance au groupe Daesh en 2019, a forcé plus de 670 000 personnes à quitter leur foyer, selon l'ONG. Fin 2020, le chercheur Eric Mortier-Guenou, professeur à la Queen's University de Belfast, avait fait part à l'Express de ses craintes face à la montée en puissance de la menace takfiriste dans cette région. Au début, ils étaient seulement quelques centaines. Aujourd'hui, plutôt plusieurs milliers, peut-être 3000 insurgés, et ces insurgés se déplaçaient à pied, parfois sans chaussures, armés de simples machettes. Aujourd'hui, ils ont tous des armes, circulent à moto et en voiture. Ce front est bien parti pour durer. En règle générale, un groupe armé met 3 ans à s'installer dans un endroit et ensuite il dure. C'est le cas au Mozambique. Il n'y aura pas de solution rapide. Il faudra des années pour résoudre ce conflit, a déclaré le spécialiste. Le groupe français Total, qui venait d'annoncer la reprise des travaux de construction du site, censé être opérationnel en 2024, après un gel de plusieurs mois lié déjà à l'insécurité, a annoncé qu'elle n'aurait bien sûr pas lieu dans ce contexte. Thank you.